Bonjour à tous, je suis Mathilde De Polis, psychologue et psychothérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en action grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permet d'aller plus loin sur nos émotions. Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de mon projet Mouvement. J'ai créé pour vous deux programmes en ligne. Mon objectif avec ces programmes est de vous aider à mieux identifier, comprendre et vivre avec vos émotions. Accessibles à tous, ces programmes ont été conçus pour être suivis à votre rythme, selon vos envies et le temps que vous choisissez d'y consacrer. Nous avons de nombreuses croyances autour des émotions. Nous pouvons avoir tendance à imaginer que le fait de les cacher peut donner l'image de quelqu'un de fort, de courageux. Ces croyances sont ancrées, pourtant elles nous desservent bien souvent. Dans ces programmes, je m'appuie sur des études sur l'intelligence émotionnelle, les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, ainsi que mon expérience en cabinet, pour vous proposer des vidéos ludiques accompagnées d'un guide pratique et d'une boîte à outils. Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.mathilde-depolis.fr. Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode spécial du podcast Mouvement. Je ne vais pas recevoir d'invité, mais je vous propose le format Let's Talk. Tout en mouvement, juste vous et moi. J'embarque mon micro pour vous plonger dans un voyage au cœur des émotions, des instants de vie et des pensées profondes dans le but de partager davantage sur qui je suis. Mon objectif est de rendre accessibles nos difficultés, nos craintes et notre vulnérabilité, tout en vous offrant des connaissances et des outils précieux. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous aidera à mieux comprendre et accueillir vos émotions. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute! Bonjour à tous, on se retrouve pour ce Let's Talk où je vais parler de ma grossesse. Alors vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les Let's Talk, c'est pas un exercice qui est évident pour moi parce que je me livre un peu plus que d'habitude. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Mais là, je vais parler de la grossesse qui est quand même un moment particulièrement intime et je veux l'aborder d'une manière, toujours avec mon angle de vue en tant que psychologue et aussi de manière plus générale pour peut-être vous apporter des réflexions ou peut-être des petits tips pour celles qui sont enceintes ou pour ceux qui vont devenir papa. Voilà. Alors, on va commencer par le début. De cette grossesse qui était clairement désirée. J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Ma mère m'a eu à 30 ans, donc j'avais un peu cette vision que voilà, pas avant 30 ans, et en effet, j'ai eu d'autres priorités à ce moment-là. Et puis je n'avais pas encore rencontré ma pépite. Pareil, j'ai mis du temps à la rencontrer, et quand je l'ai rencontrée, je savais que c'était la bonne personne, ça a été une évidence. Et je suis contente aussi de toutes ces années de célibat, entre guillemets, où j'ai vraiment appris à me connaître, à savoir ce que je voulais, à grandir finalement, pour mieux me connaître et du coup aussi mieux identifier ce dont j'avais besoin dans mon partenaire de vie. Et cette grossesse, alors elle n'est pas arrivée tout de suite, mais elle arrivait au bon moment, puisque en 2020, en fait, ça a été l'année où j'ai le plus travaillé. J'avais énormément de consultations et je créais en fait Mouvement, la boîte à outils des émotions. Et du coup, je cumulais comme ça ces deux rythmes. Et en fin 2021, j'avais vraiment fatiguée et je décide pour 2022. Je me dis à moi-même et j'organise mon emploi du temps et je le dis à mes proches. Cette année, 2022, ça va vraiment être l'année où je vais ralentir. Parce que là, ça a été trop dense et je suis très heureuse de tout ce que j'ai construit, mais je vais ralentir. Et puis comme ça faisait quand même plusieurs mois qu'on essayait, C'est pas que j'avais perdu un peu espoir, hein. Je savais que ça allait arriver un jour, mais j'y croyais plus trop en fait. Et puis là, mi-janvier 2022, j'apprends que je suis enceinte. Et ça a été un tellement beau moment dans ma vie. Et du coup, je vais commencer par là, ce qui fera vraiment lien avec le Let's Talk précédent où je parlais de la peur. Puisque dans la grossesse, on a l'émotion de la peur qui est la bienvenue puisque c'est quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais aussi, ce qui est très particulier, c'est que les autres se livrent. C'est pas forcément de manière malveillante. Je pense que c'est un peu des automatismes aussi, peut-être pour certaines personnes, une manière de se décharger. Mais du coup, on va très vite vous raconter des histoires pas toujours très agréables. Et donc, forcément, en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais il est de coutume de ne pas prévenir avant les 3 mois que nous sommes enceintes. La raison principale, c'est que si on fait une fausse couche, bah voilà. Alors ça, j'ai envie de dire, on est tous très libres de choisir, en fait. Hein. Je pense que ça vaut le coup aussi de se poser la question, est-ce que moi, je suis en accord de le dire ou pas ? Moi, j'ai fait le choix de le dire assez rapidement à mes amis très proches. C'est vrai qu'à ma famille, par exemple, j'ai vraiment attendu, j'avais vraiment envie... que ce soit OK pour eux et qu'ils puissent à ce moment-là être très heureux et se projeter en fait assez rapidement. Et puis ce qui est particulier dans mon métier, c'est que je devais aussi l'annoncer à mes patients pour pouvoir les projeter, les préparer. J'avais à ce moment-là des patients qui avaient une difficulté d'abandon ou de rejet. Donc je savais que ça allait être une nouvelle qui n'allait pas forcément être évidente pour eux à accueillir, même si je sais qu'ils me souhaitent tout le bonheur du monde. Mais voilà, c'est aussi quelque chose, en fait, quand on est psy, de pouvoir anticiper. Donc en fait, une fois qu'on l'a dit d'abord à nos proches, à nos familles, aux personnes les plus importantes autour de nous, il s'est passé ce moment où j'ai annoncé à mes patients un par un. Donc ça, c'est vrai que c'est particulier. C'est pas un groupe de personnes, on dit voilà, j'ai une annonce à vous faire. Là, c'était vraiment un par un, c'était vraiment important pour moi de prendre le temps et d'accueillir aussi leurs émotions et d'anticiper. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de prendre des suivis pour vraiment laisser le temps, en fait, jusqu'à la fin de pouvoir faire l'accompagnement qui était le plus adapté. Je me rappelle, je reviens un peu sur le début de ma grossesse, je me rappelle une première prise de sang où je faisais un peu la maline parce que la dame me demandait si j'avais des symptômes. Et je dis non, franchement, ça va. Et je crois qu'une semaine après, j'ai eu des nausées. Et j'ai vraiment eu des nausées matin, midi, soir, nuit, tout le temps. C'était assez impactant. Moi qui aime bien manger, c'était compliqué. J'avais vraiment plus d'appétit. Et comme si une petite joie de vivre, en fait, qui m'accompagne dans mon quotidien, parce que voilà, j'adore manger, n'était plus là. Et ça, c'était pas évident à vivre, mais vraiment, ça a été le seul symptôme très pénalisant que j'ai eu pendant ma grossesse. J'ai vraiment eu une grossesse facile. Et je reviens, aux peurs, du coup, j'ai fait un dérivé, mais je reviens sur les peurs, puisque du coup, on entend ces 3 premiers mois, la peur de la fausse couche. Et je connais pas mal de personnes autour de moi qui ont fait des fausses couches. J'ai pu accompagner des patientes qui ont fait des fausses couches. Je connais les chiffres. Mais je n'avais pas cette peur. En tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais que ce n'était pas une peur qui m'appartenait. Je restais prudente, bien évidemment. Je restais à l'écoute de mon corps. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, on va voir tout au long de cette grossesse que c'est intéressant de voir que face à une même situation, on peut avoir différents angles de vue. Et je pense que c'est pour tout, hein. Là je vais parler de la grossesse, mais en fait pour tout, c'est important d'être à l'écoute de soi et pas de se laisser embarquer par ce mouvement qu'est notre culture, notre pays, notre famille, notre cercle d'amis. Et où du coup, il y a un peu la pensée unique, c'est de se faire confiance et de vous dire que vous vous connaissez mieux que personne et vous avez déjà les réponses en vous. Et donc voilà, j'étais assez vite sereine et je découvre du coup, cette grossesse, ce lien aussi si particulier à ce tout petit être qui grandit en nous. Moi, je trouve ça fascinant, j'ai toujours trouvé ça fascinant, les femmes enceintes. C'est impressionnant quand même, on crée la vie. J'ai pu accompagner pas mal de patientes pendant leur maternité, pendant leur grossesse, puis leur maternité. Et comme c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, j'ai écouté depuis le début 2 podcasts, Bliss Stories, par Clémentine Gallet, où elle va vraiment laisser le temps à des mamans, principalement à des mamans, de raconter de raconter en fait leur rencontre avec leur partenaire, leur grossesse, leur accouchement et puis aussi le postpartum. C'est un podcast que j'aime beaucoup écouter. Et puis il y a aussi celui de Clémentine Sarlat, La Matrescence, qui va vraiment parler, on en parlera un peu plus tard, mais la matrescence, c'est cette contraction entre adolescence et maternité, ce moment où une femme devient mère et tous les changements qu'il peut y avoir, notamment au niveau physique, ce qu'on retrouve à l'adolescence, sauf que là, c'est en un temps beaucoup plus court, et ça va faire un chamboulement émotionnel, identitaire, professionnel, relationnel, etc., etc., mais on en parlera à un autre moment. Et donc, en fait, mes lectures, de par mon métier, mais aussi ma curiosité, l'écoute de ces podcasts, faisait que je pense que je suis... Et puis mon âge aussi, puisque du coup, je suis tombée enceinte, j'avais 33 ans. Tombée enceinte, d'ailleurs, c'est toujours drôle, cette expression. Eh bien, j'avais comme une connaissance aussi de mon corps et de ce que je voulais. J'ai une maman qui m'a toujours raconté nos accouchements, celui de mon frère et moi, de manière assez très simple, puisqu'elle nous dit, bah écoutez, moi, j'ai pas eu mal, en tout cas, je m'en souviens pas, et puis, alors pour Étienne, j'ai pas vraiment eu de contraction, pour toi, Mathilde, peut-être une, voilà. Et en fait, je savais que, comment dire, c'était pas le reflet de tous les accouchements, je pense que j'en ai assez vite eu conscience, par contre, ce que je me suis dit, c'est que c'est génial d'avoir ce récit et je l'ai gardé et je l'ai nourri. En fait, je me suis vraiment dit, mais c'est carrément c'est ça en fait. Un accouchement, ça se passe sans douleur, c'est naturel. Et j'ai entretenu cette croyance volontairement, tout en étant totalement au courant de comment ça peut se passer pour les autres. Je pense qu'il est important de respecter chaque récit. Et notamment chaque ressenti de la douleur. Quand une femme vous dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a eu mal. Quand une femme vous dit qu'elle n'a pas eu mal, c'est qu'elle n'a pas eu mal. Je pense que c'est important de respecter chaque histoire. Et du coup, j'ai vraiment nourri ça. Et ma maman a accouché sans péridurale. Donc là aussi, en fait, de manière très instinctive. Et ça va peut-être vous choquer, mais du coup, moi, j'avais peur de la péridurale. J'avais peur de la péridurale. Alors, pas aiguille, tout ça, je ne suis pas très sensible. Mais j'avais peur que du coup ça m'enlève comme une connexion avec mon corps et donc j'avais vraiment pas envie en fait d'avoir la péri. Et du coup dans ma préparation, j'ai eu une sage-femme classique et tous les autres couples étaient plutôt pour un schéma classique avec une péridurale. J'étais la seule dans un accompagnement physio, mais j'aimais bien aussi... garder ce lien et pas forcément chercher une sage-femme qui soit 100% physio. Par contre, on a, avec mon conjoint, on a fait appel à une dame, Valérie, qui nous a accompagnés en aptonomie. J'aurais dû aller chercher la définition exacte, mais du coup, je vais vous le raconter avec mes mots. En fait, l'aptonomie, c'est vraiment en lien avec les émotions. Donc voilà, ça aussi, je le savais depuis plusieurs années que le jour où je serai enceinte, bah, j'aurais envie de partager ça, ce moment. Par exemple, la Valérie, elle venait à la maison et c'était un moment vraiment, on était tous les quatre, puisque du coup, il y avait Valérie, Mathieu, mon conjoint, moi et ce petit bébé. Et ça permettait une connexion assez vite, en fait. Je crois qu'on a commencé super tôt, au quatrième mois, où en fait, c'est vraiment par le toucher. Et vous allez créer comme ça un lien, une écoute de votre petit bébé. Et je me rappelle que je pouvais le sentir avec ma main, où il allait vraiment se loger, et Mathieu pouvait le sentir aussi, avant de sentir ces fameux coups. Parce qu'en fait, moi, pendant très longtemps, je ne savais pas si c'était Jules qui me donnait un coup, ou si c'était mon transit. Enfin, je me rappelle, pendant une période comme ça, j'avais vraiment beaucoup de doutes. Et donc, l'aptonomie, c'est déjà ce moment qui est très privilégié, je trouve. On fait une pause dans nos agendas pour se concentrer sur ce petit bébé. Et puis, il y a aussi tous les échanges qu'il y a autour. Et puis, on parle beaucoup aussi de l'aspect psychologique, de nos peurs par rapport à l'accouchement, de notre accouchement idéal. Et puis on parle aussi de la douleur. Et donc, elle nous fait faire aussi des exercices par rapport à ça que j'ai beaucoup aimé. Puisqu'en fait, dans la préparation, on a essayé aussi d'utiliser un autre langage avec Mathieu, c'est-à-dire que le mot contraction, c'était des vagues. Je ne sais plus quel autre mot d'ailleurs on a utilisé, mais voilà, il y avait. En fait, très vite, j'ai compris de par les lectures. Pareil, j'essaierai de vous mettre. Alors là, je suis dans la chambre de Jules actuellement parce qu'il y a une énorme tempête dehors, donc je ne suis pas dehors pour des raisons évidentes. Mais du coup, j'ai gardé ce livre qui s'appelle La naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son corps. Alors, c'est vraiment un pavé. La préface est de Michel Audan, pour ceux qui connaissent Docteur Michel Audan, qui est un peu une référence. Et ce livre est génial parce que il va vraiment en fait vous expliquer comment le corps de la femme fonctionne et de par plein de récits d'accouchement, vous allez voir, moi ce qui m'a fascinée c'est la connexion en fait entre notre mental et le col de l'utérus, ce fameux col qui va se dilater jusqu'à on dit 10 pour ensuite que le bébé puisse passer. Et tout cet aspect en fait plus mental, et je pense que c'est là où en tant que psychologue j'avais peut-être plus d'outils et plus de facilité, c'était d'aller vers quelque chose, voilà, plus d'une préparation mentale. Mais du coup c'était en fait d'entraîner mon mental et mon corps à se faire confiance. Enfin je les ai vraiment vus comme un, je pense que je les ai pas scindés, et de dire que mon corps il savait faire en fait. Mon corps il sait faire, ce petit bébé sait faire. Et pour revenir à ces fameuses contractions, bah en fait, ce sont des vagues. C'est l'ocytocine qui est sécrétée pour contracter mon utérus pour que Jules puisse sortir. Et donc, j'ai pu avoir un accompagnement classique avec une sage-femme, de l'autonomie assez vite. Il faut savoir que Mathieu était impliqué dans tout, donc tous les rendez-vous avec notre gynéco, tous les rendez-vous avec la sage-femme, où il était souvent le seul papa, il était là. L'autonomie, bien sûr, c'était à la maison, on était tous là. Des lectures, mais je les ai sélectionnés pour pas non plus en avoir 36 000. Donc je vous mettrai les liens des livres que j'ai trouvés vraiment pertinents pour cette approche-là. À la fin, donc le dernier mois, donc ça on verra dans le Let's Talk numéro 6, où je vous parlerai de mon accouchement, qui a été très intense, très beau au niveau de la confiance en soi. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de vous en dire un petit peu plus, même si je garderai la plus grande part pour moi, mais je pense que ça peut être vraiment pertinent. Le dernier mois, du coup, j'ai écouté de Hypnobirthing. C'est une application qui s'appelle Hypnobirthing, il me semble, qui est donc de l'hypnose pour l'accouchement, si je fais la traduction. J'avais envie, je parle anglais, et j'avais envie que ce soit une voix féminine et anglaise ou américaine. Parce que je trouve que l'anglais a cette capacité d'être très optimiste, très englobant. J'aime beaucoup cette langue. Et donc, pendant tout le dernier mois, j'ai écouté tous les jours. C'était pendant ma sieste que j'étais très fatiguée sur le dernier mois. Donc, j'avais vraiment mon rituel de ma sieste. Et j'écoutais, il y avait... donc, c'était gratuit. Il y avait, je crois, 4 ou 5 méditations différentes de 20 à parfois 45 minutes. Où vraiment, cette voix me guidait en me disant « Your body know how to do it », ton corps sait ce qu'il doit faire. Je ne sais plus là, ça, je ne sais pas à écouter du coup, mais voilà, c'était vraiment très englobant, très, très agréable. Et je pense que ça a été à peu près les choses que j'ai mis en place pour ma grossesse. J'ai arrêté les consultations fin juin. C'est vrai qu'émotionnellement, ça, c'est très particulier parce que du coup, on est un peu plus... on est un peu plus sensible émotionnellement. En tout cas, moi, ça a été mon cas. C'est ce qui s'explique au niveau du chamboulement hormonal. Mais c'est vrai que je l'ai vite ressenti. J'avais beaucoup moins cette barrière et j'ai pu très facilement pleurer devant des patients. Donc, je leur expliquais. Puis à ce moment-là, mon ventre, le rappelait que j'étais enceinte. Mais du coup, je m'étais tout de suite des mots dessus. Et comme je travaille sur les émotions, je suis assez à l'aise dessus. Donc je me rappelle un jeune patient qui me racontait quelque chose de très touchant, qui avait perdu son frère. Et là, je sens que mes barrières sont en train de lâcher. Donc je lui dis, écoute, là, je vais pleurer, mais je suis avec toi. Et là, c'est les hormones qui s'expriment. Et en fait, je pense que rien que d'avoir mis des mots dessus, il a compris, quoi. Et c'est vrai que il y a eu des moments comme ça, parfois un peu délicat, je trouve, à accueillir. Et quand j'en ai parlé à ma gynéco, elle était prête à m'arrêter beaucoup plus tôt, mais j'avais vraiment cette envie d'aller au bout de ce que j'avais dit à mes patients et de les accompagner en fait au maximum, de préparer aussi la suite, donc de chercher une nouvelle collaboration ou de les envoyer vers d'autres psychologues aptes. Voilà, bon, pour la plupart, on a fini les suivis. Il y en a quelques-uns, bien sûr, qu'on continuait. Et puis, après, c'était de dire non aussi à beaucoup de personnes. Mais ça, c'est le jeu. Et du coup, fin juin, j'ai arrêté les consultations. Mouvement, j'ai continué, mais j'ai quand même ralenti pas mal. Puisqu'on verra, du coup, sur le postpartum. Mais c'était important pour moi de prendre ce temps. Voilà ce que je peux vous dire pour la grossesse. Je pense que ce qui est... Ce que je voulais vraiment transmettre, c'est de se faire confiance et de... Comment dire ? Aujourd'hui, on a plus d'accès aussi à différentes choses, que ce soit physiologique, avec la péridurale, tous les accompagnements du yoga prénatal, etc., de l'hypnose. Et je pense que c'est la richesse qu'on a aujourd'hui. Et c'est aussi parfois la limite, c'est que du coup, on a de plus en plus accès à de la connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir, comme le dit souvent Clémentine Gallet. Mais c'est justement de s'autoriser en fait à dire ce dont j'ai envie, qu'est-ce qui résonne pour moi le plus juste. Il n'y a pas une bonne manière de vivre sa grossesse, il n'y a pas une bonne manière d'accoucher, c'est juste de le vivre en fait. Et ça a été ma plus grande leçon pendant cette grossesse et le postpartum, c'est d'être. De plus être forcément dans le faire, mais c'est juste être. Et être, c'est difficile parce que c'est moins palpable, c'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment le mettre sur une to-do, c'est juste ressentir qui l'on est, se faire confiance. Et se dire que notre corps, il sait. Et de vraiment, je trouve que ça invite à se reconnecter à soi. Et du coup, cette reconnexion à soi aussi nous invite à le partager. Tout d'abord à notre partenaire, à lui transmettre, à dire, tu vois, là, j'ai plus l'impression que c'est ça. Là, je ressens que c'est ça. Là, j'ai envie que ce soit ça. Là, j'ai besoin de ça. Et de guider aussi les personnes qui nous entourent. De toutes les histoires, les récits qu'on peut entendre, de prendre ce qui nous fait écho, mais le reste, si vous ressentez que c'est pas pour vous, que c'est pas votre histoire, vous pouvez faire preuve de curiosité, mais vous dire ok, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est vrai que c'est une phrase que je dis souvent, mais il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, notamment dans les émotions, pour les personnes qui peuvent se retrouver dans ce que je partage de ok, là je ressens ce que vit l'autre, mais en fait c'est pas à moi, voilà. On n'est pas tous égaux sur les ressentis, mais si ça peut faire écho à certaines personnes, c'est peut-être une petite phrase qui peut vous aider, ou en tout cas vous questionner, dire « Attends, mais là, je ressens de l'anxiété, je ressens de la peur, mais est-ce que ça m'appartient ?» Oui, non. Et puis ensuite, vous voyez ce que vous pouvez en faire. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura peut-être apporté certains tips, certaines réflexions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour le prochain épisode où je vous parlerai de mon accouchement. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne et plein d'autres outils sur mon site mouvement.mathilde-depolis.fr. Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram, @mathilde-depolis-psy, pour plus d'astuces et de contenu ludique autour des émotions. À très vite pour un nouvel épisode.